Eric Clapton, donc, écoutons Miguel Villanova.
Passeur d'infos.
Tu vas attendre 2 ans
sans papier
et tu reçois refusé
sans papier.
Passeur d'infos est une plateforme d'information et d'actualité sur la question des migrants réfugiés et des personnes et organisations qui les accueillent et les soutiennent. De l'Europe entière, des correspondants nous donnent les détails de leurs actions.
L'occupation
sans papier. Sans papier.
Tu vas sortir, c'est pas la peine.
Sans papier.
Sinon les gaz lacrymogènes.
Sans papier.
Ouloulou, m'y met tes piches.
Bonsoir à tous, c'est l'heure de Passeurs d'infos avec deux petites minutes de retard. On a eu quelques soucis par rapport à de la musique qu'on voulait vous passer. Dommage. J'espère que vous allez bien. Il fait gris, il fait un peu froid, donc donner des mauvaises nouvelles, c'est pas toujours évident. Par un temps pareil, ça démoralise encore un peu plus, mais on va essayer d'être un peu moins terne pour cette émission de Passeurs d'infos numéro 165. Et oui, déjà, dites-moi, ça en fait un paquet. On va parler aujourd'hui, on va se promener. On va parler de Briançon un petit peu. On va passer par le Congo-Brazzaville et par le Maroc aussi. Ça fait déjà un petit voyage. Il y a eu des nouvelles condamnations qui sont tombées la semaine dernière au tribunal de Gap. Et on va en profiter pour écouter un entretien qu'a fait Pierre. Notre ami Pierre. Vous voyez ce que, de qui je veux parler, qui était sur Radio Zinzine pendant un temps. Pierre Isnard, voilà, son nom m'échappait d'un coup. Donc il a fait un entretien avec le médecin Max Duez, qui est chirurgien, je vais y arriver, dans le Briançonnais, et qui était venu témoigner à la barre du tribunal de Gap pour conforter l'engagement solidaire des prévenus qu'on a appelés à ce moment-là 3 plus 4 de Briançon. Donc il va redonner quelques éléments de son témoignage et il nous explique bien sûr pourquoi il est inacceptable d'empêcher des maraudeurs et des maraudeuses et autres gens courageux de venir en aide aux personnes que nul n'arrêtera de toute façon parce que leurs motivations sont bien trop profondes pour se laisser arrêter. En attendant, je vais vous lire une déclaration qui est sortie il y a quelques jours de Tous Migrants et de la CIMAD, donc à la suite de la condamnation de 3 autres montagnards solidaires, ce qui fait 3 plus 4 plus 3, ça fait 10 personnes maintenant qui ont été condamnées parce que courageusement elles sont venues en aide à des personnes qui étaient en danger de mort. Donc après ce verdict scandaleux du 13 décembre, donc à l'encontre des 3 plus 4, Tous Migrants et la CIMAD Sud-Est s'alarment du déni de justice inacceptable et des nouvelles condamnations infligées aux 3 autres montagnards. Le 10 janvier, donc, Marie, Pierre et Kevin étaient jugés au tribunal de Gap. Ils ont été jugés coupables et sanctionnés pour avoir été solidaires. Mais ne nous trompons pas. C'est à nouveau la solidarité et le devoir de fraternité qui ont été condamnés et pénalisés. Et comme bien d'autres personnes solidaires auparavant, Marie, Pierre et Kevin n'auraient pas dû être à la barre d'un tribunal français puisqu'ils et elles n'ont fait qu'aider une personne exilée en danger ou distribuer un thé chaud. Au cœur de ce procès auraient dû se trouver non pas des personnes solidaires, mais les vraies raisons politiques de cette situation catastrophique dans nos montagnes alpines, qui deviennent des zones de non-droit, de violence et de souffrance mortelle, mettant en danger de mort des personnes. La police aux frontières traque et poursuit des exilés dans la montagne. Des signalements ont été envoyés au procureur pour illustrer ces intimidations, ces violences répétées dans les montagnes, une plainte et des témoignages accablants ont été recueillis et envoyés à ce même procureur qui ne peut donc pas les ignorer et ignorer la situation dans les Alpes. La CIMAD et tous migrants se demandent à quelle justice obéit ce tribunal et à quel principe d'ailleurs. Des gestes de solidarité d'hommes et de femmes qui apportent soutien et assistance à leurs prochains ne devraient pas être poursuivis par les procureurs. Les raisons sont là encore éminemment politiques. Tout d'abord visées à faire passer pour des délinquants les personnes solidaires qui défendent des droits humains, ensuite dissuader celles et ceux qui un jour croiseront sur le bord de la route ou au détour d'un chemin des personnes exilées, épuisées, en hypothermie, près de la frontière. Enfin, chercher à casser le mouvement citoyen de celles et ceux qui remettent en cause les frontières telles qu'elles sont vécues actuellement. Quant à la magistrature, à Gap, elle s'aligne sur le ministère public. Nous nous inquiétons de l'indépendance de cette justice, de son impartialité. Le tribunal de Gap semble incapable de prononcer des relaxes face à cette impérieuse nécessité de condamner pour faire trembler la solidarité. En effet, il y a eu d'ailleurs au tribunal, le tribunal a passé outre les droits de la défense lors de ce procès. Il y a eu des avocats qui n'avaient pas eu accès au dossier pénal de l'un de ses clients avant l'ouverture du procès et un second qui l'a reçu très tardivement. Le report a été demandé, à chaque fois refusé, alors même qu'aucune urgence vitale ne justifiait la tenue de ces procès, comme l'a rappelé l'un des avocats. Je vous passe une partie de cette déclaration. On nous parle de la dérive de l'état de droit. Dans ce contexte, on peut s'interroger sur qui sont les militants et pour qui militantisme signifie l'instrumentalisation d'une situation pour la poursuite d'une finalité prédéfinie. S'agit-il des personnes qui viennent en aide à d'autres personnes en détresse dans le respect du principe de la fraternité, que ce soit à titre individuel ou dans un cadre associatif, ou bien celles qui cautionnent délibérément les multiples entraves aux droits et les violences policières à l'encontre des personnes exilées, celles qui s'acharnent à poursuivre ces personnes solidaires et à les condamner, celles qui prennent a priori pour vrai les versions policières et qui accusent a priori les solidaires de fabriquer des faux tout en refusant d'examiner les documents apportés à l'appui de leur dire. Voilà pas mal de questions qui sont posées et tous solidaires, tous maraudeurs, là c'est un appel qui est lancé. Nous réaffirmons que les maraudes soulagent des souffrances et permettent de sauver des vies dans les montagnes, qu'il s'agit d'une solidarité active qui va bien au-delà du geste charitable, isolé, auquel les dirigeants actuels voudraient le réduire. À Briançon comme à Paris, Calais ou dans tant de grandes villes, les maraudes sont les conséquences de ces politiques migratoires qui érige en principe de ne pas accueillir et de mal accueillir celles et ceux qui ne nous ressemblent pas. C'est pourquoi Tous Migrants et la CIMAD Sud-Est affirment que les maraudes continueront tant que ces politiques illégales et dangereuses persisteront. Tous les procureurs de France ne suffiront pas à endiguer les personnes solidaires qui, chaque jour plus nombreuses devant ces exigences de solidarité qu'elles découvrent, agissent pour défendre les droits des exilés. Ah, ça c'est des affirmations qui nous plaisent. Donc, Tous Migrants et la CIMAD Sud-Est appellent à une maraude géante solidaire le 15 mars prochain à Montgenèvre, qui va s'intituler « Tous solidaires, tous maraudeurs ». Il y aura d'autres informations à suivre, cet appel, donc on va vous le répéter jusqu'au 15 mars, parce que ça serait bien d'être des milliers, voire des centaines de milliers. Donc merci d'avance de faire circuler cette déclaration dans vos réseaux. On vous rappelle aussi que la cagnotte pour les frais de justice des 3 plus 4 plus 2 plus encore ceux qui arrivent est toujours ouverte. Je vais vous mettre le lien sur le descriptif de cette émission, donc sur le site de Radio Zinzine. Je vous rappelle à l'émission numéro 165 que vous allez pouvoir d'ailleurs réécouter ce soir même sur le site de Radio Zinzine. On écoute un peu de musique et tout de suite derrière l'entretien donc de Pierre Snar avec Max Duez, médecin chirurgien du Briançonnais.
On en fait tout un pataquès de cette migration, mais je trouve moi que ce qui est dramatique, c'est pour eux, c'est de voir que c'est des jeunes gars qui ont quitté leur pays, où on a besoin de force vivre, et moi je trouve que pour nos pays c'est un enrichissement, et pas du tout une contrainte. Mais ça, il faut essayer de faire comprendre aux gens qui ont peur. Ils ont peur d'un inconnu, et puis c'est tout. Ils ont peur des peaux noires, ils ont oublié que nos ancêtres étaient noirs, puisque nos ancêtres étaient disque dur la planète, c'est l'Afrique centrale, je crois. Hein. Pas que pour les minéraux et les métaux rares qu'on leur vole, mais aussi pour l'origine de l'humanité, elle est bien là. Hein. On oublie, on a la mémoire courte. Mon leitmotiv, c'est de dire que si on assure une mise à l'abri correcte, ce qui se fait dans cette ville, si on les nourrit, ce qui se fait ici, il y a plus de 55 000 repas qui ont été donnés depuis un an. Si on les soigne, si on leur donne aux jeunes des possibilités d'aller dans des formations, lycées d'enseignement professionnel, etc., il y a zéro délit. Et il y a plus de 6 000 migrants qui sont passés dans cette petite ville qui comprend en noyau de Briançon, c'est 12-13 000 habitants, hein, c'est pas très grand. Le Briançonnais, c'est que 35 000 habitants. Pour la ville, 6 000 migrants qui sont passés dans une ville qui contient pas plus du double, c'est quand même une masse importante. Il y a eu zéro délit, zéro carreau cassé, zéro magasin vandalisé, pas de bris de vitrine dans les gares. Si on ouvre les portes et qu'on les met dans un refuge, il n'y a pas de raison de squatter une gare, de la casser pour se mettre à l'abri quand il gèle à moins 20 l'hiver. Zéro agression physique, zéro agression sexuelle. Tout ça parce qu'ils ont été mis à l'abri, parce qu'on les accueille. Et ça, c'est au profit de toute la population et de toutes les idéologies politiques et de toutes les orientations philosophiques ou religieuses. On protège même les gens d'extrême droite.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel lieu on se trouve ici? Parce que vous nous recevez dans un lieu particulier quand même.
On se retrouve dans des locaux qu'on a appelés Refuge Solidaire. Ce sont des locaux qui nous ont été offerts, entre guillemets, par la communauté de communes du Briançonnais, dont le président est le maire de Briançon, pour que justement ils ne soient pas à la rue, qu'ils ne traînent pas dehors, primo pour eux, mais aussi pour la population, comme je vous dis. Il n'y a personne dans Briançon qui est sous les ponts dehors, pas beaucoup de ponts à Briançon, mais sous un porche d'une maison, etc. Et ce refuge a été ouvert à la fin de l'année 2017, à l'automne 2017, suite à la grande arrivée qui était l'été 2017. Ils dormaient sous la tente dehors. L'été, ça va, mais l'hiver, c'est pas possible. Et donc, on a été plusieurs à demander des locaux pour les abriter. Et ce refuge ici est organisé, vous rentrez dans un grand sas d'entrée, il y a d'un côté un bureau d'accueil, qui est aussi un bureau d'orientation, pour dire aux jeunes, allez plutôt là ou là. Derrière, il y a un grand réfectoire, et au-dessus, il y a des chambres pour les abriter et pour qu'ils puissent dormir. Et ici, c'est un bureau médical, comme vous voyez, très sommaire, mais où on fait du tri pour ne pas envoyer tout le monde à l'hôpital quand ils ont besoin de soins. Ce n'est pas la place pour eux d'être dans un service d'urgence pour faire de la bobologie ou des choses plus graves. C'est une gare de triage où ils sont vus tous les jours par des médecins de l'hôpital ou de la ville. J'ai été chirurgien des hôpitaux pendant quand même pas mal de temps, donc des gardes et astreintes, je sais ce que c'est, et je ne peux pas venir ici tous les jours. Je donne une partie de mon temps, mais pas tout mon temps. Voilà. Donc il y a des gens qui sont plus courageux que moi, notamment dans l'accueil et dans l'orientation, où il y a un gros travail qui est fait.
Vous avez tenu à témoigner dans le cadre du procès des 7 de Briançon. Pourquoi ce témoignage et qu'est-ce que vous avez raconté à ce procès ?
Parallèlement à ce refuge qui est un lieu d'accueil, il y a une organisation de sauvetage qui se fait en montagne, comme le sauvetage en mer. C'est la même problématique. Vous avez quelqu'un qui tombe à l'eau parce qu'il y a un zodiac qui est surchargé, il y a des bateaux comme Aquarius, etc., qui ratissent la mer et qui prennent les gens qui sont en train de se noyer. Surtout s'ils ne savent pas nager et faire ce qu'on peut. La montagne, c'est la même chose. La montagne, il faut se préparer, c'est un milieu hostile. si on part faire une course en montagne avec un guide de montagne, il faut se préparer, avoir les chaussures ad hoc, les crampons, les piolets, les cordes, etc. Et ces jeunes-là qui viennent d'Afrique, où il n'y a pas beaucoup de neige, que je sache, peut-être un petit peu encore sur quelques rares sommets, mais c'est peu de choses, ils ne la connaissent pas. Donc ils tombent dans un milieu hostile sans aucune préparation, en basket, et quand ils marchent dans la neige en basket, ben, ils tombent dans la neige, ils perdent leurs chaussures et ils continuent pieds nus dans la neige, jusqu'à ce que se geler les doigts des pieds, des mains, etc. Jusqu'à mourir, puisque l'hiver dernier, on a eu 3 morts. Donc il y a une organisation qui est faite par ce qu'on appelle les maraudeurs, qui ne sont pas des passeurs. Le mot passeur, il est foutu, le mot passeur. C'est comme le mot collaborateur, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on ne peut plus l'utiliser, parce que c'est une connotation qui est fichue. Et le mot passeur suppose qu'il y ait des compensations financières. Donc ce mot, il est pour moi, Max Duez, à proscrire comme le mot collabo. Les tribunaux accusent les passeurs à bon escient, mais il ne faut pas accuser les maraudeurs. Et le procès des 7, c'était un faux procès qui n'avait pas lieu d'être contre des gens qui ne sont que des maraudeurs, c'est-à-dire qui sillonnent la montagne pour voir et sauver la vie des gens. Et ils ont sauvé, eux, des dizaines de personnes l'hiver dernier. Et ça continue cet hiver. Vous arrivez là, on est début décembre, vous voyez déjà toute la neige qu'il y a dans ce pays. Ici, à Briançon, il gèle à moins 10 la nuit, mais en montagne, à 2000 et quelques mètres, c'est plus sévère, et c'est mortifère. Donc s'ils ne peuvent pas passer la frontière routière, ils passent par des chemins détournés, et là, ils risquent de mourir s'il n'y a pas des maraudeurs qui vont leur donner du thé chaud, des chaussures, des chaussettes, des moufles, des bonnets. La base. Et nous ici, on n'arrive qu'après. Moi, dans ma vie, j'ai été chirurgien. Donc c'est un métier, contrairement à ce qu'on croit, qui est relativement facile parce que les choses sont cadrées. C'est beaucoup plus difficile d'aller en hélicoptère, dans une paroi, quand il y a des conditions météo défavorables. Les pales d'hélicoptère peuvent accrocher une paroi, ça arrive, avec des morts. Il y a des caravanes terrestres qui mettent leur vie en péril pour aller sauver des gens en montagne. Moi, j'ai jamais mis ma vie en péril pour aller sauver des gens. Les gens arrivent blessés, ils passent par le service des urgences, où ils sont conditionnés, ils sont préparés, ils sont bichonnés, puis ils arrivent dans un bloc opératoire, où nous, on arrive là, les anesthésistes pour les endormir, et les chirurgiens pour les opérer. Mais le travail est déjà un peu mâché, si je puis dire. Et nous, on fait notre travail le plus méticuleusement possible, mais on ne met pas notre propre vie en danger. Or, les maraudeurs mettent leur vie en danger, et les secours en montagne, qu'ils soient organisés par la compagnie des CRS Secours en Montagne, par le peloton de gendarmerie de montagne, par des guides, des accompagnateurs, etc. Ce sont des gens qui font des métiers dangereux. Hein.
Est-ce que vous pouvez nous raconter des blessures de ces personnes exilées qui ont essayé de venir ici, qui ont été amenées par des maraudeurs jusqu'au refuge, dont vous avez été témoin, que vous avez soigné aussi?
Ceux dont je n'ai pas été témoin, c'est les 3 morts. Les 3 morts, c'est des polytraumatisés, ils étaient cassés de partout, ils en sont morts de leurs blessures. Donc on imagine qu'il y ait des fractures multiples. Les gens qui ont présenté quelques fractures, c'est isolé, c'est à la marge, c'est peu de choses. Par contre, ce qu'on a eu énormément l'hiver dernier, c'est beaucoup de gelures, premier, deuxième, troisième degré, etc. Le travail des maraudeurs a fait que ils ont limité la casse, c'est qu'en réchauffant les gens ou en les amenant relativement vite ici, on a pu éviter des amputations ou des choses de cet ordre, actes qui ont été faits dans l'hiver précédent, dans l'hiver 2016-2017, il y a eu des amputations.
Et l'hiver qui arrive là, vous le voyez comment, vous Max Duez, avec tout le contexte qu'on a évoqué juste avant?
Mais ce que j'ai déjà dit, qui a été épinglé dans la presse, je n'ai pas envie de changer d'avis, c'est que la militarisation des frontières, au sens large du terme, est mortifère parce que ces jeunes, par la porte ou par la fenêtre, ils chercheront à passer. Ils vont emprunter des chemins de traverse dangereux potentiellement mortelle, et comme les professionnels de la santé, comme les professionnels de la montagne, je voulais dire, guides, accompagnateurs, on est inquiets parce qu'ils ne sont pas préparés. Regardez là, quand on va sortir ces jeunes, c'est des gamins entre 15 et 25 ans, qui sont les plus costauds, hein. Les morts, ils sont morts en cours de route, ils sont morts dans le désert, ou ils sont morts en Libye, beaucoup plus qu'on ne croit. Dans la consultation de ce matin, j'ai vu des tas de gars qui ont été battus, torturés, avec fractures, qui ont nécessité parfois des opérations en Italie, qui, ceci dit, sont bien faites en Italie. Il faut arrêter de descendre et dézinguer l'Italie. L'Italie, elle fait ce qu'elle peut. Hein. Donc moi, je ne la critique pas. L'Europe a abandonné l'Italie dans ce problème. Hein, mais côté médical, sur l'Italie, grosso modo, j'ai rien à reprocher. Hein, c'est correct. Donc, où ils sont morts dans le désert, où ils sont morts en Libye, où ils sont morts en Méditerranée. Il y en a 1 sur 5 qui reste noyé en Méditerranée. Il y a un an, il y en avait 1 sur 17. Donc ceux qui arrivent ici, c'est les plus costauds. C'est bien les plus costauds. Hein. Donc, essentiellement, à 80%, ils viennent de Guinée-Conakry ou de Côte d'Ivoire. Donc ils parlent français. Donc ils ont envie d'arriver dans des pays francophones. Ils n'ont rien contre l'Italie, mais ils ne parlent pas l'italien, ils n'ont aucun rapprochement avec cette culture. Donc ils veulent venir dans des pays francophones qui sont chez leurs anciens colonisateurs. Hein. Voilà.
Donc pour en revenir sur l'hiver qui commence là, vous êtes inquiet, vous pensez que la situation va être pire que les hivers précédents?
Peut-être pas pire que l'hiver précédent, parce que l'hiver précédent, il y a un enneigement quand même très important. Le réchauffement climatique fait que les conditions météo changent un peu. Et on a ce qu'on appelle plus d'humidité dans le nord des Hautes-Alpes. Donc on a des vents, des retours d'est. Ce sont des vents qui viennent avec l'humidité de la Méditerranée et donc paradoxalement avec des enneigements plus conséquents. Donc le réchauffement climatique va faire que les hivers seront un peu moins rigoureux. Il va peut-être geler à moins 20 la nuit au lieu de moins 25. Mais il va quand même faire froid et il va quand même neiger et il va quand même paradoxalement davantage neiger dans cette région de Briançonnais.
Depuis la nuit des temps, on ne compte pas les gens s'étant mis en mouvement, tout en laissant derrière famille, culture et terre, fuyant la misère ou les guerres, partis pour une vie meilleure, en quête de trouver mieux ailleurs. Se déplacer un droit universel, mais des humains en sont privés par ceux et celles qui tiennent les ficelles, qui préfèrent que circulent seulement capitaux et marchandises. Mais Sud n'en est plus, alors ne circule plus. L'espoir a disparu, c'est ce que boulot et argent disent. Et comme migrer coûte cher, on le fait surtout en terre voisine. Occident, rassure-toi, toute la misère ne viendra pas chez toi, non. Faute de moyens et grâce à toutes tes lois rigides, viendront plutôt les plus diplômés, brain drain dramatique au pays d'origine. Mais ils penseront à verser heureusement bien plus que l'aide publique au développement. Circuler droit inégal, violé par loi illégale.
On est tous un petit peu étrangers sur terre, ou tous amis, tous frères, c'est la version que je préfère. À nous d'agir pour que leurs idées étranges puissent se taire. Évitons les erreurs d'hier et du métissage, soyons fiers. On est tous un petit peu étrangers sur terre, ou tous amis, tous frères, c'est la version que je préfère. À nous d'agir pour que leurs idées étranges puissent se taire. Évitons les erreurs d'hier et du métissage, soyons fiers.
Eh bien oui, à chaque crise, la xénophobie ressurgit. Étrangers ou sans papier, coupable parfait. Stoppons nos préjugés et regardons les chiffres, puisque l'étranger cotise plus qu'il ne profite. Mais sans papier, tu es noyé en mer administrative. Cool si t'as papier. Parcours du combattant, va-t'en partir ailleurs. Même si tes grands-parents, il fut un temps, étaient nos tirailleurs. Il semblerait qu'on ait pris goût en Occident à t'enfermer, peu importe le coup dans ses camps. En France, dans des prisons, dans des centres de rétention remplis de souffrance et de honte. Comme ces camps aux portes de l'Europe orchestrés par celle-ci. Elle part pour pas que part, débarque pour la Sicile. Crédit pour Frontex et les accords concertés. Elle a du sang sur les mains avec sa politique inhumaine qui pue la peur, la haine. Espère qu'elles seront lavées par l'oubli et les vagues méditerranéennes.
On est tous un petit peu étrangers sur terre, ou tous amis, tous frères, c'est la version que je préfère. À nous d'agir pour que leurs idées
étrange puisse se taire. Évitons les erreurs d'hier et du métissage, soyons fiers. On est tous un petit peu étrangers sur terre, ou tous amis, tous frères, c'est la version que je préfère. À nous d'agir pour que leurs idées étranges puissent se taire. Évitons les erreurs d'hier et du métissage, soyons fiers.
Le rejet de l'étranger va dans l'inconscient collectif, souvent de pair avec un sursaut nationaliste. On tombe souvent dans le jeu électoraliste, démonstraciste. J'en suis inquiet et triste pour la santé de nos démocraties. On reprend les pires pages de notre histoire, en chassant les migrants ou en faisant des islamalgames. Parle-moi de ces 2000 femmes portant le voile intégral. Je te parlerai des 2 millions victimes de violences conjugales. Comme souvent on se trompe de combat, qu'est-ce qu'on attend pour briser nos schémas, briser nos préjugés, pour voir en l'étrangère et l'étranger la possibilité de voyager, de s'ouvrir et d'échanger. Douce France ne serait pas si belle sans sa diversité culturelle. Richesse sous-estimée sous le poids de l'hypocrisie qui freine l'égalité et se méfie de l'origine. L'étranger est une chance, il est temps que nos regards changent.
On est tous un petit peu étrangers sur terre, ou tous amis, tous frères, c'est la version que je préfère. À nous d'agir pour que leurs idées étranges puissent se taire. Évitons les erreurs d'hier et du métissage, soyons fiers. On est tous un petit peu étrangers sur terre, ou tous amis, tous frères, c'est la version que je préfère. À nous d'agir pour que leurs idées étranges puissent se taire. Évitons les erreurs d'hier et du métissage, soyons fiers.
Voilà, vous venez d'entendre Colibri, qui est Gabi, qui nous a amené Martial Panucci, qui a fait ce fameux concert au Cavalulu mardi soir. C'était hyper bien, le débat avec lui était extrêmement intéressant. Il nous a beaucoup parlé donc de son pays, du Congo-Brazzaville, de ce qui s'y passe, de l'intervention étrangère, française principalement, mais pas que, à l'intérieur de ce petit pays de, il nous a dit, 4 millions d'habitants. Qui a vu 400 000 morts, il nous a dit, au moment du coup d'État ou de la c'était le coup d'État, hein, des guerres de milices, me dit Alex, m'a soufflé dans l'oreillette, de Sassou Nguesso. Je ne sais pas si vous imaginez, faut faire le compte par rapport à la France, si jamais il y avait une telle quantité de personnes qui étaient tuées relativement, ça ferait que, on a fait le compte l'autre jour au petit déjeuner, ça ferait 6 millions à peu près, un peu plus, 6 millions et demi de morts. Je ne sais pas si vous imaginez quoi sur la population française à cause d'élections ou à cause d'un dictateur qui veut rester au pouvoir. Ça ferait 6 millions de morts. C'est énorme, non ? Je voulais juste vous faire une petite info pour la semaine prochaine. On va écouter la semaine prochaine deux personnes parce que je voulais en parler de cette histoire de plainte collective qui a été posée contre l'Italie à propos des accords européens de Dublin qui prévoient donc que les demandeurs d'asile soient renvoyés dans le premier pays européen où ils ont débarqué. Il y a une très bonne émission qui a été faite sur Radio Galère, que vous pouvez d'ailleurs podcaster, avec beaucoup d'informations sur le Mamba, le travail du Mamba à Marseille, donc ce collectif marseillais d'accueil et de soutien aux réfugiés et exilés. Et donc on parlera de cette plainte collective qui a été posée contre l'Italie. Et il va y avoir pas mal d'actions autour de ça, c'est pour ça que je voulais juste vous en parler un tout petit peu, l'histoire que vous tendiez l'oreille si vous en entendez parler ailleurs. On va continuer cette émission, donc ça avait un lien, hein, Colibri, Gabi, avec Martial, que je voulais vous faire écouter, Martial Panucci. Malheureusement, le CD ne marche pas, donc je ne peux pas, mais ça sera pour la semaine prochaine. On écoutera Martial et on écoutera sa musique aussi, parce qu'il a vraiment des textes qui sont super engagés, super intéressants. C'est un combattant, on peut dire ça, vraiment, Martial Panucci, c'est un combattant, c'est un type qui a pris le taureau par les cornes et qui a décidé que voilà, ce qui se passe dans son pays, que ces politiques qui sont menées un peu partout, elles sont tellement injustes qu'on peut pas les laisser tranquilles, on peut pas laisser passer ça sans rien dire. Il dit beaucoup de choses et franchement son rap est à écouter impérativement. Moi qui suis pas une férue ou une fan plutôt de rap, j'étais vraiment très contente de l'entendre. Donc ça sera pour la semaine prochaine aussi. Là on va écouter une slameuse, et je parle d'elle parce que c'est une amie de Martial, c'est une Congolaise de Brazzaville qui donc s'est exilée à Rabat. Aurore, elle faisait partie d'un collectif de slameurs à Brazzaville. Entre embrigadement religieux, harcèlement sexuel et censure politique, elle a fui son pays chéri avec comme bagage le slam et un désir impérieux de liberté. Au quotidien, Aurore, c'est une de ces personnes très discrètes, au regard légèrement fuyant et dont la voix douce peine à se faire entendre parfois. Mais lorsqu'elle slame, la jeune Congolaise se transforme. Son regard devient perçant et sa voix assurée. Elle est une autre. Aurore, elle est née à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Elle vit au Maroc depuis presque 3 ans et elle nous raconte son quotidien dans ce pays dont d'exil dont elle se dit amoureuse. Mais avant d'envoyer l'enregistrement, un petit mot d'elle. Le chemin d'exil. Questionne tes fuites et tes errances. J'enfante le meilleur. Renvoie dos au mur la morale. Toise avec arrogance l'immoral. Et pis des mystères hautains des tombeaux blanchis. Côtoie la folie créatrice dans la matrice même de la vie. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas, je suis l'artiste. Ça, c'est des mots d'Aurore. On l'écoute pour vous mettre un peu dans l'ambiance de sa passion, le slam. Je vous offre un petit moment d'atelier en sa compagnie avant l'entretien que j'ai fait avec elle.
Le slam, c'est de la poésie urbaine. Pourquoi urbaine ? Parce qu'il est né, dit-on qu'il est né dans la rue. Mais moi, je partage pas cette définition de slam. Pourquoi ? Parce que pour moi, le slam, il est d'abord une expression écrite et après, elle passe à l'oral. Mais n'est pas né dans la rue parce que quelqu'un l'a appelé slam. Quelqu'un, un jour, s'est décidé, il s'appelle Mark Kenny Smith. Il s'est décidé dans son bar de Chicago à faire parler les gens. Les gens s'ennuyaient, il s'est rendu compte que les gens venaient dans le bar, ils s'ennuyaient, que les gens, ils se parlaient pas. Il a décidé de donner la parole aux gens, moyennant un verre de bière. Et comme ça, les gens, ils ont commencé à débiter toutes les conneries qu'ils avaient à dire, toute leur colère, tout ce qu'ils voulaient dire. Après, le mec, il s'est rendu compte que non, s'il n'y a pas de règles, les gens, ils vont monopoliser la parole et les autres, ils ne parleront pas. Il dit, 3 minutes, la parole pendant 3 minutes, et on ne s'insulte pas, on ne dit pas des choses méchantes aux autres, on ne s'agresse pas. Et après, il a décidé de l'appeler slam. Mais nous savons tous que ce n'est pas ça l'origine du slam. Chez nous, en Afrique, on a des griots. Et on en a encore. Et les griots, c'est une forme de slam. Ils parlent. Ils chantent. Chez les musulmans, du temps de Mohammed, ils avaient comme ça des souks où les gens y prenaient la parole. Aux États-Unis, avant que Mark Kelly Smith, dans les années 1980, décide d'appeler cet art la slam, il y avait les spoken words. Ils faisaient des battles de paroles. Il fallait pouvoir impressionner l'autre, non seulement par le message que tu portes, mais aussi par la manière de le dire, parce que ça aussi c'est très important. Donc il y avait ça, la façon de dire des choses, il y avait le rythme. Et ils se sont appuyés sur certaines figures de style, comme la rime. Le slammer, lui, il n'a pas besoin de musique. Parce qu'il peut trouver la musicalité dans ce qu'il écrit. Et donc, elle est un peu différente de la poésie classique. Parce que plus libre, tu n'es pas obligé d'écrire en vers. Tu n'es pas obligé d'être coincé dans les histoires d'alexandrins ou de quatrains. Mais tu es libre, libre de t'exprimer avec tous les mots, que ce soit l'argot, les mots de la rue. Tu es même libre de t'inventer tes mots à toi. L'essentiel est que tu saches, tu donnes à ces mots un sens qui t'est propre à toi. Mais le plus important, c'est de s'exprimer sur une question et la manière dont tu t'exprimes sur cette question-là. Voilà, à mon avis, pour moi, ce que c'est que le slam. Et aujourd'hui, notre thème a porté sur la politique migratoire européenne. Voilà, ça c'est notre thème. Et là, on a notre thème. On va trouver les mots. La politique migratoire européenne nous fait penser à quoi ? Qu'est-ce que ça évoque en nous ? Quand on parle de politique migratoire, tout de suite, quels sont les mots ? Qui viennent à votre tête? On va essayer de répertorier un peu les mots.
Injuste.
Injuste.
Ça, tu l'as dit.
Injuste.
Fermeture.
Fermeture. Fermeture. Frontex.
Oui, c'est ce que je pense.
Quoi d'autre?
Comédie migratoire européenne.
Comédie migratoire européenne. Comédie.
Moi je dirais tragédie, hein.
Tragicomédie, hein.
Quoi d'autre?
La crise d'hospitalité.
Crise d'hospitalité. Puisqu'on peut, on peut même criminaliser l'aide. L'aide est devenue criminelle. Tu peux aller en tôle pour avoir donné un lit à quelqu'un. Criminalisation. Une certaine hypocrisie des États. Xénophobie.
Criminelle.
Xénophobie.
La politique elle-même est criminelle.
Barbelée.
Xénophobie, barbelée.
C'est d'ambivalence en ouverture-fermeture, cette.
Mur. Politique de dominant à dominé. Ça revient comme d'habitude.
Arrogance.
Arrogance. Déchéance des valeurs humaines. Puisque les choses peuvent circuler librement, pas les hommes. Malheureusement. Des valeurs humaines.
Et les femmes d'ailleurs.
Ouais. Voilà, on a autant d'idées. Et qu'est-ce qu'on en fait? On en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Et je vais devoir demander à chacun d'écrire quelques lignes sur tout ce qu'il pense de la politique européenne en se servant de ces mots-là. Est-ce qu'ils aiment? Parce que c'est la libre expression de l'islam. Il y en a certains qui aiment cette politique-là. Donc c'est libre. Donc si vous pensez que vous aimez la politique migratoire européenne, alors on va essayer, vous allez écrire et dire tout ce que vous en pensez. Si vous n'aimez pas, qu'est-ce que ça va? Quel est le sentiment que ça évoque en vous? Et donc on va essayer d'écrire. Mais il y a une contrainte. Mais je mets quand même la contrainte aujourd'hui. Je sais que c'est libre, mais il y a quand même une contrainte aujourd'hui.
Oui, oui.
La contrainte. Parce que c'est quand même de la poésie. Même si elle est urbaine, ça reste de la poésie.
C'est quoi la contrainte?
La contrainte, c'est que les phrases, elles devraient rimer. Et la rime, c'est la répétition d'un même son. C'est pas important, c'est juste pour des questions de style ou de déclamation, bah, sinon ça c'est pas important.
Je vais pas vous imposer ça.
On va écrire de manière libre.
Ces violences m'étourdissent et m'accablent. Ces cris, ces mélodies macabres m'assourdissent. Je voudrais juste dire pour taire cette musique qui vibre dans ma tête. Je voudrais vivre et sortir de cette prison. Je voudrais me désintoxiquer, exorciser mon être. Je voudrais zapper ce film d'horreur, pisser sur la terreur, rire de la solitude. Je voudrais tourner les pages sombres de ce livre. Je voudrais écrire une histoire plus belle, plus lumineuse, où j'apprends à vous pardonner, à vous aimer. Mais il n'y a pas de pardon dans le silence. Pas de pardon sans véritable repentir.
Oui, je viens du Congo-Brazzaville, un pays que j'aime énormément et qui me manque beaucoup, mais dans lequel j'ai pas pu rester, en fait. Je n'ai pas pu rester au Congo-Brazzaville. Le climat politique qui est quasiment malsain. C'est vrai que les gens y habitent. C'est vrai que pour le moment, les armes ne pleurent pas dans toutes les rues. Mais c'est un climat très malsain, beaucoup de tribalisme. Et le peuple est oppressé dans le silence. Les choses, elles se passent silencieusement, on tue, on arrête, aucune liberté. Et les politiques, enfin, un problème tribal. Les politiques, enfin, un problème tribal. Et tu vois, c'est un pays où aujourd'hui, il y a une sorte de scission entre le nord et le sud.
C'est une manière d'asseoir un certain pouvoir, en fait.
Oui, bien sûr, c'est une manière d'asseoir un certain pouvoir et de profiter de la sympathie du peuple dont on est dans la même tribu. Si c'est un nordiste qui est au pouvoir, tout de suite on diabolise ceux qui sont du sud, on les prend pour le diable. Et si c'est celui du sud qui est au pouvoir, et c'est pareil. Mais en fait, dans le fond, à mon avis, on n'a pas ce problème-là. Les politiques l'utilisent pour pouvoir manipuler le peuple, pour pouvoir voler, pour pouvoir...
Vendre des terres.
Voilà, vendre des terres. Et moi, je suis partie. Justement, ce qui m'a motivée à partir, le jour du changement de la Constitution, moi, je suis du Nord, mais j'ai vécu dans un quartier sud. J'habitais dans le quartier sud. Et je me suis retrouvée toute seule. Et les gens, ils avaient fouillé, les gens, ils se faisaient tirer dessus. C'était pas beau à voir, juste pour un an, vous pouviez vous faire tuer. Et ça s'est passé dans les quartiers sud, là où
tu habitais.
Oui, là où j'habitais. J'ai dû partir parce que j'ai vu que j'étais enceinte. J'étais enceinte et je portais un enfant dans le père et du sud. Et je me suis dit que je pouvais pas élever un enfant dans ce climat, un enfant qui va naître avec l'idée qu'elle est soit du sud, soit du nord. Non, elle est en tout. Je ne vais pas mettre au monde un enfant où elle serait obligée de choisir. Et j'ai décidé de partir. Vu le passé, toutes les oppressions que j'ai connues dans le domaine religieux, et tout ça a fait que j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de voir autre chose, quoi. Mmh.
Voilà. Parce que là, à ce moment-là, t'avais pas d'engagement politique particulier, t'étais pas repéré comme quelqu'un qui pouvait mettre en danger un système, un pouvoir, ou être meneuse de révolte.
Je ne pense pas. Je suis artiste et je suis slameuse, on écrivait des textes. Je ne pense pas que j'aurais pu être une menace pour eux. Je ne pense pas, non. Même si les autres l'ont été. Les autres l'ont été. J'ai des amis qui ne peuvent pas rentrer aujourd'hui, qui ne peuvent pas rentrer pour le moment.
Bon, en tout cas, si tu ne l'étais pas à ce moment-là, tu étais à risque de le devenir. Et puis, de toute façon, c'est à ce moment-là le régime qui t'oppresse, tu t'en vas et tu décides de venir au Maroc.
Oui. Peut-être que je pense qu'à force d'y rester, peut-être que je serais devenue, parce que c'est révoltant ce qui se passe au Congo. C'est révoltant.
Congo-Brazzaville.
Au Congo-Brazzaville, c'est révoltant et je pense que je le serais peut-être devenue. Voilà. Et donc j'ai décidé de m'installer au Maroc. Voilà.
Alors ça, c'était au départ, tu as décidé de t'installer au Maroc ou tu es partie dans une migration, entre guillemets, dans un voyage, dans une aventure, comme d'autres disent, pour l'Europe, et tu as resté au Maroc, et finalement, tu te rends compte qu'au Maroc, tu peux aussi faire ta vie, ou bien est-ce qu'au départ, tu t'étais dit, je vais au Maroc et je vais m'installer là-bas ?
Au départ, je me suis dit que je vais au Maroc et je vais m'installer au Maroc et faire mes études et mettre au monde ma fille.
Ah, elle est née ici ?
Oui, elle est née ici.
Et alors, comment ça se passe pour toi, le Maroc ?
Le Maroc, je dois quand même avouer que je suis un tout petit peu amoureuse de ce pays. J'aime bien ce pays et même s'il y a... C'est pas rose tout le temps, il y a des problèmes avec la liberté d'expression.
Pour une slameuse ?
Oui, pour une slameuse et même pour une comédienne. Il y a des choses où dans un certain milieu, vous ne pouvez pas dire. Il y a aussi le fait que... Beaucoup de gens s'attachent des fois à des détails sur l'accoutrement de quelqu'un, particulièrement à Rabat. Mais sinon, moi personnellement, je rencontre pas beaucoup de problèmes. Mais bon, et puis des problèmes d'insultes xénophobes ou racistes. Peut-être que je refuse juste de voir ou des. Je tiens pas compte de cela. Je pense pas être souvent victime de. Ou peut-être que je refuse juste d'écouter ou de... Je sais pas. Mais sinon, je vais en cours et...
Tu fais des études ?
Oui, je fais des études ici. Je fais des études.
De quoi ?
Je prépare une licence en agence de voyage et tourisme. Et je fais des études d'aide-soignante aussi.
Et les deux en même temps?
Oui, les deux en même temps.
D'accord. Et en même temps, tu donnes des ateliers slam?
Oui, je donne des ateliers slam, théâtre, danse, voilà, dans des écoles ou dans des associations, voilà. Et en ce moment, je suis bien intégrée dans une troupe de théâtre marocain. Et je suis la seule subsaharienne dans la troupe. J'ai dû travailler pour ça, c'est pas facile.
Oui, c'est ça que j'allais te demander. Quelles sont les difficultés quand même? Parce que, ok, dans la rue ou dans les espaces publics, tu fais fi du racisme, on va dire, parce qu'il y en a, ça on le sait. Mais du coup, tu as été quand même confrontée à des difficultés. Ça devait pas être rose, ce parcours.
Oui, bien sûr, il a pas été rose. Du fait, d'abord, il y a eu le langage. C'est vrai que c'est un pays francophone, mais la majorité des gens, et même en atelier, ils vous parlent en darija. Et donc, ça n'a pas été facile. Il y a eu ce problème de langue. Et tu arrives dans un pays où, artistiquement, ils ont une façon de voir, ils ont leur réseau, et donc c'est vraiment pas, ce sont des réseaux assez fermés, et c'est pas facile de pouvoir trouver ou s'intégrer là-dedans. Vous trouverez des gens qui travailleront avec vous juste quand ils auront besoin des migrants. Ils ont besoin de migrants, ils travailleront avec vous, ils vous donneront des miettes, et puis la création, elle va pas loin, c'est comme ça.
Et puis tu vas jouer le rôle du migrant.
Oui, et puis tu vas jouer le rôle du migrant, mais c'est des stéréotypes. Un comédien, on peut pas juste jouer le rôle du migrant ou de la victime ou tout ça. Il faut pouvoir être libre de pouvoir jouer tout ce qu'on veut. Et...
Mais moi, je sais, pour fréquenter beaucoup de femmes qui arrivent du Congo Brazzaville, du Congo Kinshasa, de la Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle migrantes. Mm-hmm. Voilà, moi, je dirais des personnes en situation de migration. Je sais qu'elles ont des difficultés pour accoucher, etc. Comment ça s'est passé pour toi?
Moi, j'ai accouché difficilement. J'ai manqué d'informations, en fait. Je suis arrivée, j'étais toute seule, et les personnes qui m'ont orientée, ils m'ont orientée vers une clinique où je devrais payer 500 dirhams à chaque consultation. Et la dernière consultation où je suis allée, normalement, parce que je lisais sur Internet pour avoir des nouvelles, et normalement, il aurait dû me faire l'examen pour voir si je pouvais accoucher par voie basse ou par voie... Mais il m'a demandé de revenir dans 2 semaines, évidemment, parce que j'allais repayer les 500 dirhams. Et 2 jours après, j'ai accouché. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, ils ont demandé
cet examen.
Ils ont demandé cet examen et je leur ai expliqué que je ne l'avais pas. Et donc, j'ai dû faire un bébé de 4 kilos... que j'ai dû sortir par voie basse pour un premier accouchement. Ça a été difficile et ça a été très long. Et le pire, c'est que l'enfant a eu une paralysie du plexus brachial, et je m'en suis aperçue une semaine après. Je me suis rendu compte que le bras de l'enfant, il bougeait pas. Mais je savais pas où est-ce que je devais aller ou comment je pouvais commencer. Et à ce moment, j'avais pas encore été régularisée, donc j'avais pas mes papiers.
D'accord, mais tu as pu avoir l'acte de naissance, tu as pu avoir tous ces papiers-là?
J'ai pu avoir l'acte de naissance, mais l'acte de naissance congolais.
Voilà. Ton ambassade t'a délivré un acte de naissance?
Oui, j'ai un acte de naissance délivré par l'ambassade.
Et alors pour le bras de la petite, parce que je l'ai vu, ta petite, elle a pas de paralysie du bras, elle marche très bien.
Oui, elle marche très bien.
Elle marche très bien, la mécanique, je veux dire, hein, parce qu'on marche pas sur les mains.
j'ai dû batailler, ça a été l'une des périodes les plus sombres de ma vie. Oublier celle que j'ai passée dans la communauté religieuse, à part celle-là. Et se retrouver dans un pays comme le Maroc, où tu n'as pas de papier, avec un enfant qui est né avec une paralysie du plexus brachial, je crois que ça a été la pire épreuve qui me soit arrivée. Et tu peux pas... Des fois, t'es submergé par ta mal... T'as... tu sais pas quoi faire, tu sais pas où tu vas, mais tu dois te battre pour qu'elle arrive au moins à récupérer la mobilité. Le pire, c'est qu'à l'hôpital, je pense qu'ils se sont bien rendus compte de ça, mais ils me l'ont pas dit. Et quand je suis allée voir le médecin, ils prennent en charge juste ceux qui sont régularisés. Et moi, j'étais pas régularisée. Et donc, j'ai dû prendre en charge. Je devrais aller en rééducation tous les jours. Et c'était 100 dirhams, la rééducation. Je me suis débrouillée comme j'ai pu et j'apprenais. Je suis même devenue kinésithérapeute. J'ai appris à devenir kinésithérapeute en herbe pour pouvoir aider le bras de cet enfant. Et si j'avais pas eu le soutien de ma mère, le soutien moral de ma mère, elle m'a beaucoup soutenue moralement de ce côté. Elle n'arrêtait pas de dire ça va aller, il faut pas baisser les bras, il faut te battre, il faut te battre, il faut te battre.
Est-ce que ta mère, elle a accepté ce voyage, elle a accepté ton départ, elle a accepté tout ça?
Oui, elle a accepté parce que depuis un certain temps, j'habitais plus avec mes parents. Et donc, elle n'a pas trop eu le choix. Voilà, je me prenais un peu déjà en charge toute seule. Voilà, et quand je leur ai dit que je voulais partir, ils ont accepté. Et même mon père avec qui on avait des problèmes, notamment sur le point religieux ou la conception religieuse, il a accepté de m'aider, en fin de compte.
Bon, comme quoi le courage, alors ça paye aussi des fois.
Oui, bien sûr, ça paye le courage. Il ne faut pas baisser les bras, jamais, jamais.
D'accord, ben on va t'écouter cela de nuit. Je te remercie beaucoup, Aurore.
Celui qui part est anathème. Rêve d'ailleurs et blasphème dans cette sphère confinée où nous enferme notre indigence culturelle. Le déplacement des grands est libre et prestigieux, mais celui des petits est vil et ignominieux. Je sais, c'est ce que l'on dit. Ces exils qui nous blessent, ces frontières qui se dressent, l'indifférence est devenue la noblesse même. Ces bouts de nous que l'on peine à reconstruire dans cet ailleurs qui ne veut pas de nous. Pas besoin d'avoir un gun à la tempe pour comprendre que l'inhumanité est une entaille indélébile faite à la fraternité universelle. Mes racines se croisent, s'entremêlent et disparaissent entre l'océan Atlantique, l'Ubangi et le Congo. Pour mon père, nous venons d'une tribu disparue d'Afrique du Nord. Pour ma mère, on vient d'une tribu cannibale gabonaise. Et là d'où je suis née, on nous appelle Baspenga, ceux qui viennent d'ailleurs. Pas vraiment d'ici, pas tout à fait de là-bas. Là-bas, je suis la fausse note de ces partitions qui se veulent parfaites. Ce mauvais djinn qui effraie les enfants. Ici, je suis l'étrangère qui arrache le pain de la bouche de leurs enfants. Pas vraiment d'ici, pas tout à fait de là-bas. D'origine de je ne sais quoi, de souche de je ne sais où. Rentre chez toi, oscillant entre mon identité religieuse subie et mon athéisme pas tout à fait assumé, écartelé par mes racines disparates, dans ce brouhaha, dans cet océan de vacarme, je me demande quelle partie de moi vaut mieux que l'autre, quelle partie de moi mérite d'être appelée humain, celle d'ici, celle de là-bas. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Mais c'est où chez moi? C'est où chez moi? Merci.
Merci à toi. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à écouter Aurore, qu'on retrouvera certainement dans une prochaine émission pour d'autres témoignages. Elle a plein de choses à raconter, elle a plein de textes à nous livrer aussi, donc on la retrouvera, c'est sûr. Oui, on va terminer avec un rappel d'un appel qui est lancé donc par Tous Migrants et la CIMAD Sud-Est, qui appelle à une maraude géante solidaire donc le 15 mars prochain à Montgenèvre. Ça va s'appeler Tous Solidaires, Tous Maraudeurs. Alors oui, je sais, vous vous dites, mais 15 mars, on a bien le temps de voir venir. Non, ce qui est important, c'est qu'on en parle beaucoup pour qu'on soit des milliers de personnes là-haut. Et voilà. Pour ça, il faut faire circuler cette déclaration dans vos réseaux, dans tous vos réseaux sociaux et autres. Et en plus, on vous rappelle qu'il y a une cagnotte pour les frais de justice de tous ces maraudeurs, maraudeuses solidaires, qui est ouverte sur un GoFundMe, ça s'appelle gofundme.com. Je vous ai mis l'adresse de ce lien, enfin je vous ai mis ce lien sur le descriptif de cette émission, donc passeur d'info numéro 165 sur le site de Radio Zinzine. Vous pouvez donc aller consulter, aller les aider, donner un petit peu d'argent pour les soutenir, parce que les procès, ça coûte cher. Je vous rappelle que sur ce même site, au nom de ce passeur d'info 165, vous pouvez réécouter l'émission, vous pouvez réécouter Aurore, et je vous promets que la semaine prochaine on aura Martial Panucci, qui est aussi un Congolais de Brazzaville et qui nous avait donné un beau concert d'Europe de rap mardi soir dans les caves à Lulu. On arrive à la fin de cette émission pour une fois, avec un petit peu de relâche, hein. On n'était pas sur les charbon ardent. On a même écouté un peu de musique, c'est génial, c'est rare qu'on arrive à faire ça dans cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Zinzine. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le samedi à 18h et réécoutable sur le site de Radio Zinzine. Au revoir, merci Johannes pour la technique et à très bientôt. Passeur d'info, une émission proposée par Radio Zinzine.
Tu vas attendre 2 ans
sans papier
et tu reçois refusé
sans papier.
Goulou, loumi,